Alors, on va se lancer. Merci à tous d'être venus pour cette deuxième édition du Mola Polar, d'avoir affronté le froid des canards pour venir nous rejoindre. On sait qu'il y a des habitués qui nous ont prévenus qu'ils arriveraient un peu en retard. Pour l'instant, ils sont au chaud dans leur lit. Et raison de plus pour remercier Marie-Pierre Grâce-Dieu d'avoir quitté sa capitale chaleureuse et chaude pour rejoindre les terres froides de Bordeaux. Une terre consacrée au meurtre, au polar, au thriller. Et c'est notre deuxième invité pour ce Mola Polar. La première fois, nous avions invité un auteur, mais la littérature policière, ce sont des auteurs, c'est aussi des éditeurs. Et Marie-Pierre Grâce-Dieu est une éditrice, quelqu'un donc qui choisit les livres que les amateurs de polar vont lire ensuite. Alors Marie-Pierre a un joli parcours dans le monde de l'édition. Elle s'est illustrée au sein de Stock, où on lui doit des livres qui ont été des succès assez phénoménaux, notamment Oksanen, c'est elle qui a découvert Sophia Oksanen. Elle a lancé chez Stock une collection de littérature policière. Et puis face à ce talent et ce succès, M. Gallimard a dit « Je veux avoir avec moi cette personne très douée ». Et ne résistant pas aux sirènes de la rue Sébastien Botin, devenue la rue Gaston Gallimard, Marie-Pierre a rejoint l'équipe Gallimard, où elle est éditrice désormais en littérature étrangère. Et comme chez les Gallimard, ça faisait des jaloux, Madame Gallimard, la directrice, le PDG du Mercure de France, a dit « Je veux aussi Marie-Pierre Grâce-Dieu » et lui a confié les soins de s'occuper d'une nouvelle collection de policiers. C'est pour cette collection-là que nous l'avons invitée. En quelque sorte, on lance la collection avec elle. Et c'est de ce livre, de ces livres dont nous allons parler, et puis aussi de son parcours dans le domaine du policier, de ce qu'elle aime. Et elle va passer à la question entre les doigts de notre équipe d'amateurs de polar. Voilà. Je lui laisse la parole et je la remercie surtout d'être venue et de nous faire l'amitié de venir. Voilà.
Merci, David. C'est un plaisir d'être là, à vrai dire. J'ai déjà succombé au charme de Mola et de toute son équipe l'année dernière en accompagnant ici Jonathan Coe. Mais c'est vrai que c'est un plaisir tout particulier que de venir fêter le lancement de cette nouvelle collection ici avec vous, le Mercure Noir.
Donc, vous, comme a dit David, vous aviez créé la collection Cosmopolite Noire qui déjà avait été fortement remarquée par les libraires il y a 2 ans. Vous l'aviez créée, c'est ça, en octobre, je crois, 2012.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, ça fait quelques mois que vous êtes passé à Mercure et vous avez créé la collection Mercure Noire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce changement cette passation vers Mercure Noir, de cette création donc d'une nouvelle collection, d'une nouvelle identité graphique, on peut le voir aussi, et donc de nouveaux auteurs, peut-être pas trop nouveaux auteurs, parce que Monica Fagerlund, je crois que vous la connaissiez déjà.
Tout à fait. Monica est une auteure que j'ai publiée chez Stock dans La Belle Cosmopolite, qui est une collection de littérature générale. Et c'est une écrivain qui flirtait depuis longtemps avec les codes du roman noir, en installant des ambiances très sombres, étranges, cruelles, qui rappellent un peu celles des films de David Lynch. Et à vrai dire, j'étais encore chez Stock, et puis je n'avais pas encore eu l'idée d'une cosmopolite noire quand elle m'a parlé de ce polar sur lequel elle travaillait. Et j'ai pensé ensuite que ce projet de cosmopolite noire, c'est certainement elle qui me l'avait un petit peu inspiré. Pour revenir un peu vite, effectivement, sur ce qui s'est passé à l'époque, quand j'ai eu ce projet de cosmopolite noire, il a fallu forcément un an et demi, avant que les premiers livres soient prêts, puisqu'il s'agissait exclusivement de polar étranger. Donc c'est vrai que dans la décision que j'ai dû prendre de quitter la maison Stock pour rejoindre la très belle maison de Gallimard, il y avait beaucoup de, pas d'hésitation, mais de sujets un peu complexes. Et cette collection, forcément, il était difficile de la quitter. Alors j'ai pu la lancer. C'est vrai qu'en octobre 2012, la maison Stock m'a fait ce plaisir et les 2 premiers livres sont sortis. Il y en avait un certain nombre que j'avais acheté et qui allaient ensuite sortir, que vous avez découvert ici, dont on reparlera.
Oui.
C'est vrai que donc, je suis arrivée chez Gallimard avec l'envie de m'occuper de littérature, exclusivement de littérature, et j'ai été très touchée par la proposition d'Isabelle Gallimard qui a été finalement de renouer avec le genre, de m'offrir cet espace, ce territoire pour publier des textes qui, effectivement, proposerait de s'inspirer d'une enquête, voilà, mais pourrait le faire de manière un peu différente du roman policier classique. Mmh. Et des textes dans lesquels on remarquerait une écriture dotée de beaucoup de personnalité, après avec différents registres. Moi, j'aime l'humour aussi, par exemple, mais c'est vrai que je suis sensible à des écritures poétiques. Donc voilà, je me suis lancée. Quelques mois après être arrivée chez Gallimard. Et donc là, au mois d'octobre les deux premiers livres, donc ce premier polar de Monica Fagerholm et le recueil de nouvelles qui n'en est pas vraiment un.
C'est un roman décliné en 10 nouvelles.
Voilà, de Zen Lovitt, jeune auteur australien, très intéressant pour ce qu'il nous révèle finalement de la société australienne aujourd'hui, mais il le fait avec une voix très forte, celle d'un détective privé à Melbourne aujourd'hui, et qui est à la fois très attachant, parce qu'il a vraiment envie de très bien faire et de, comment dire, remettre un peu de morale dans la société contemporaine. Et puis souvent, il subit beaucoup de difficultés. Et en même temps, il le fait avec beaucoup d'humour. Voilà, une certaine. Il fait preuve d'autodérision. Une voix très forte, je trouve.
Oui, c'est vrai que ce sont des polars autant dans la cosmopolite noire que dans et encore plus, je trouve, enfin on trouve dans Mercure Noir des territoires singuliers, des univers souvent âpres, mais en même temps extrêmement poétiques. Bon, on pense bien sûr à Monica Fagerholm qui a un univers même fantasmagorique, on peut dire, mais c'est vrai que Zane Lovitt qui s'inscrit plus dans la tradition un peu du hardboiled tel qu'on l'imagine avec le privé, enfin agent privé de recherche, il se nomme John Dorn, qui est à la fois cynique, nonchalant, désabusé, avec ce côté humour noir en effet, donc plus dans la tradition du polar tel qu'on l'imagine, mais ce sont des polars quand même assez littéraires aussi. Hein, ce sont des voix vraiment qui détonnent dans le polar actuel. Donc c'est vrai que ce sont des romans et alors on appelle ça polar ou pas, mais bon après ça peut être lu par des lecteurs de non polar aussi.
Oui, c'est l'idée en fait. Mais j'ai des goûts, c'est vrai, assez éclectiques entre guillemets dans ce genre-là. Je lis du polar depuis très longtemps. J'ai commencé par le roman policier classique anglais.
Oui.
Voilà, anglais et français, je vous parlais même de mon goût pour Ex Braya quand j'étais
oui, alors c'est vrai
jeune adolescente. Mais,
d'où l'humour.
Voilà, d'où l'humour. Et Agatha Christie aussi. Et voilà, tous ces classiques-là m'ont nourri jeune adolescente, perdue dans mon Auvergne natale où on s'ennuyait beaucoup aussi. On parlait de l'ennui tout à l'heure. Et après, effectivement, je suis allée vers du plus sombre, du plus noir. Voilà, Elroy a été aussi une lecture très très importante. Ce que j'aime, moi, c'est qu'un texte, avant tout, me surprenne. Mais je dirais que j'ai la même attitude en littérature générale et en polar. Donc, c'est vrai que ce que je pense vous proposer au sein de cette collection, ce sera toujours une réalité qui ne me semble pas avoir été forcément découverte avant. Réalité sociale, historique, locale. Donc, j'ai envie d'être un peu loin des territoires déjà explorés. Et parfois, j'imagine que j'oublierai que quelqu'un a déjà peut-être traité ça. Mais en tout cas, j'aurais envie de révéler un écrivain qui amène sa patte, qui, du coup, dans la construction de son histoire, de son intrigue, le personnage qui l'imagine, vous propose une vraie rencontre. Voilà. Mais c'est vrai qu'on reparlera ensemble d'une auteure espagnole à laquelle je tiens beaucoup, dont j'avais publié le premier livre dans cette cosmopolite noire, Dolores Redondo Mera. Et elle, par exemple, je trouve qu'elle elle réunit à la fois... des éléments... elle décrit un monde. Donc pour moi, elle s'apparente au polar, puisque vraiment, elle révèle les montagnes du Baztán, le Pays basque espagnol, un monde rural très âpre, pour le coup. Mais elle sait construire son histoire, parfois à la manière d'un thriller. Il y a une langue, une poésie inspirée un peu des légendes locales, cette mythologie qu'elle revisite. Donc voilà, j'aime qu'un auteur vraiment se distingue par sa personnalité.
Oui, ce sont des polars qui nous surprennent, qui nous enchantent. Et Dolores Redondo, on peut la rapprocher de Monica Fagerholm, de Lola à l'envers, qui est un polar sans être un polar, parce que l'intrigue en elle-même, il y a vraiment une intrigue polaire, il y a vraiment des meurtres. Mais en même temps, ce n'est pas ce qui est le plus important et ce qui nous captive. Ce qui nous captive, c'est donc l'écriture, en effet, comme tu as dit, qui s'inspire de David Lynch, parce que Monica Fagerholm le confesse, de Twin Peaks notamment.
En fait, elle a envie de vous perdre quand même. Elle a envie de semer le doute dans votre esprit, savoir... où vous êtes, avec qui vous êtes,
les personnages. Elle fait bouger les lignes.
Ouais.
Et c'est vrai que Lola à l'envers, qui est le fil conducteur, qui est une poupée qui contient elle-même des secrets, qui est un peu l'incarnation de l'histoire en même temps et du roman. Et c'est une construction extrêmement intéressante et avec des chapitres très courts, des chapitres beaucoup plus longs. C'est lancinant, c'est un rythme et en même temps avec une vraie intrigue puisque le personnage principal revient dans la ville de petite ville balnéaire de Flatneuse sur la côte.
C'est la côte est, en fait.
La côte est de Finlande. Et 17 ans après un meurtre qui s'est produit en 1994, et on a une contre-enquête d'une certaine façon, puisque le suspect qui avait été arrêté à l'époque n'est pas...
Tout à fait. Yana, en fait, la jeune fille en question, qui n'est donc plus une jeune fille quand le livre commence et qu'elle revient là, elle n'appartenait pas à la bonne bourgeoisie locale. Et donc, elle est très surprise au début du livre parce qu'elle est invitée par Minnie Backlund, qui, elle, en était une digne représentante, qui, à l'époque, avait organisé le fameux dîner... Enfin, pas dîner, pardon. À l'époque, ils étaient adolescents, donc c'était une sorte de grande fête au sein de laquelle toute la jeunesse dorée était réunie. Donc, Yana n'en était pas. Et elle est très surprise que 17 ans plus tard, Yana est invitée à ce dîner que Minnie organise avec les principaux participants de l'époque. Et donc, on est plongé dans l'esprit de cette jeune femme qui est partie quand même un peu vite après les faits, après l'acte. C'est elle qui a trouvé le corps, en fait, du jeune homme.
Voilà. Il y a 17 ans, 94.
Oui, Fleming qui avait été qu'on a retrouvé... assassiner un coup de Juliette dans la tête. En fait, la Juliette, c'est ce que Monica invente et qui est une forme de reconnaissance pour les documentaristes au niveau international, un peu comme les Césars. Voilà. Et donc, il y a un personnage de documentariste dans cette petite ville de Flatneuse très en vue. C'est un monde vraiment qu'elle
oui,
bâtit,
qu'elle recrée,
finalement,
oui, tout à fait.
Au bout du monde, où à la fois on sent qu'il y a vraiment des familles d'une grande richesse, des artistes très reconnus, et puis à côté de ça, il y a des gens très pauvres. Et aussi des artistes ratés, ça c'est un thème qui l'obsède, de les faire se confronter et de voir à travers le temps combien ses rêves les poursuivent. Et même les personnages les plus désespérés chez Monica Fagerholm ont une énergie qui parfois d'ailleurs leur vaut de commettre un peu l'irréparable. Mais c'est vrai qu'avec ce livre-là, elle montre vraiment qu'elle tient son intrigue jusqu'au bout. Et ce que je trouve, sans rien vous révéler, extrêmement brillant, c'est que là où à la fin on se dit « Ah, ça y est, arrive le moment où tout va être dit, révélé, et ce dîner est bien évidemment un peu un point de... » Et bien finalement, c'est pas exactement là que tout va être... Là aussi, finalement, elle, même dans le dénouement, la révélation, elle réussit à trouver un autre lieu où autre chose va se passer, et ça va faire résonner différemment l'exposé des faits. Voilà. Donc elle joue même avec les codes du genre encore, mais à la fin, vous saurez exactement tout ce qui s'est passé...
Elle déjoue nos attentes.
Ouais.
Et vous aussi, en publiant Monica Fagerholm et en la faisant connaître aussi un public de polar plus spécifiquement.
Ouais.
Alors, on a compris que vous vouliez éditer des textes singuliers, des univers qui ne ressembleraient pas à d'autres choix de maisons d'édition. Mais comment vous faites pour les trouver, ces textes? C'est quoi les dessous du métier de l'édition? Vous avez des agents, vous voyagez dans le monde entier.
Il n'y a pas d'éditeur dans la salle.
Vous lisez le suédois, vous lisez l'anglais, vous lisez l'espagnol. Comment on fait ?
Alors, je lis l'anglais et l'allemand. Pour le reste, ce qui m'a semblé très important dès que je suis arrivée chez Stock, en fait, ça a été de rencontrer les lecteurs de ces autres langues en qui je pourrais avoir toute confiance. Donc, je me suis fait renseigner, voilà, beaucoup. Je suis allée voir des gens qui travaillaient notamment avec ces différentes langues, je pense... au Centre national du livre, où, fut un temps, nous avions les Belles étrangères. C'est magnifique. Et la même personne s'occupait des Belles étrangères où un pays était choisi. Donc, à chaque fois, elle avait besoin d'un spécialiste. C'est la même personne qui travaillait aussi sur les invitations au Salon du livre, vous savez. Donc là, elle connaissait quelques experts. Donc, ça m'a valu de très belles rencontres, ce qui ont fait d'ailleurs que j'ai pu publier aussi des auteurs littéraires nordiques, tout autant que découvrir mieux le polar. Comment on fait en littérature étrangère, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les agents. C'est-à-dire qu'il n'y a un peu qu'en France... que les auteurs choisissent de travailler principalement avec leurs éditeurs, parce que pour la langue anglaise, et pour l'allemand aussi maintenant, et pour l'espagnol d'une autre manière, il y a ces interlocuteurs qui sont les représentants des auteurs, qui nous amènent les textes très tôt, à l'état de manuscrit. Parfois, c'est d'ailleurs un peu problématique, puisqu'on peut avoir aussi les textes un peu trop tôt. et là, il s'agit de lire vite, Comme on reçoit beaucoup de choses, on en parlait un peu hier, l'important, c'est aussi d'essayer de décrypter, faire ce premier tri, en fait, sans avoir lu, on peut lire quelques pages aussi, mais bon, il y a vraiment un tel nombre qu'il faut aller voir un peu si le milieu que l'auteur est censé décrire, ses personnages, ses héros, vont, voilà, m'intéresser, me semblait justement suffisamment différent, parce que des fois, dans la description, on a l'impression d'être un peu déjà dans quelque chose qu'on a déjà lu. Donc ça, ça occupe quand
c'est
même...
C'est vous qui lisez avec d'autres ou toute seule?
Alors, on a des lecteurs, mais pour le polar, c'est quand même principalement moi en anglais et en allemand. Et puis après, je fais appel au service de lecteurs pour l'espagnol, notamment, avec Dolores Redondo Nero. Je pense à une auteure danoise qu'on va publier aussi. Donc là, je suis passée finalement par mon petit réseau de conseillers historiques. Et c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est à la fois obligé de travailler avec des lecteurs un peu, de se faire aider. Puis à un moment, quand même, c'est nous qui prenons la décision et qui assumons, qui devons assumer, ce qui est une très bonne chose. Donc pour moi, c'est à la fois passionnant de travailler avec ces intermédiaires. Et en même temps, il faut aussi pouvoir s'assurer que le livre corresponde quand même à ce qu'on attend. Pour Sophie Oksanen, par exemple, dont David parlait tout à l'heure, ce qui était assez beau, c'est que cette auteure finlandaise, quand on m'a parlé d'elle, c'était encore un stade très avancé, parce que le livre n'était pas sorti en Finlande. Et là, l'agent, qui m'en parlait un peu au hasard d'une conversation très amicale à Stockholm, m'a donné d'abord très, très envie en me décrivant vraiment le livre dans le détail, je dirais, à la fois les personnages, le scénario, la manière dont c'est construit. Et très intelligemment, ils avaient fait traduire 100 pages en anglais, et magnifiquement traduite, parce qu'il s'agit pas... Il y a aussi des agents qui, maintenant, essayent d'avoir 10 pages en anglais, mais qui font faire par un stagiaire. Donc là, des fois, c'est la pire recommandation qui puisse arriver pour un auteur. Là, c'était magnifique, et du coup, je suis repartie avec ce texte, et je me suis dit, mon Dieu, mais l'écriture... Enfin, voilà, j'ai pensé à Duras dans ces instants-là, etc. Donc, on part avec un autre élan que simplement un rapport de lecture. Voilà, donc, je parle souvent avec des confrères... Il y a des confrères qui refusent de publier des auteurs qui n'ont pas pu lire directement. Moi, il ne s'agit pas de refus, mais il y a un moment où, je sais que je peux, que peut-être mon instinct va me pousser à reculer. Et enfin, et que c'est très agréable aussi de publier les auteurs qu'on a pu lire. C'est mon grand plaisir chez Gallimard aussi aujourd'hui en littérature anglaise, vraiment, d'avoir pu savourer le texte de A à Z.
Et vous ne publierez pas d'auteurs français, alors?
A priori, l'idée est vraiment de révéler des voix étrangères. Là, j'ai fait un petit séjour au Canada qui m'a amenée à Montréal, et j'avoue qu'on m'a parlé de quelques auteurs de polar québécois qui n'ont pas forcément de maison en France. Et je me suis dit, quand même, ils sont un peu étrangers chez nous. Oui, voilà, j'espère que ce n'est pas... Non, pour l'instant, c'est-à-dire que c'est une vraie chance de pouvoir travailler en littérature étrangère. La collection, elle sera très sélective, 4, peut-être 6 livres par an, avec le temps, vraiment au maximum. Donc, j'ai envie de me consacrer à ces étrangers qui me plaisent beaucoup, à vrai dire, en littérature en général.
Et après, pour la maquette, les couvertures, comment ça se dessine, une collection ?
Alors, effectivement, c'était un point un peu redoutable, puisqu'il y a, comme vous le savez, beaucoup, beaucoup de polars. On a une équipe, en fait, c'est l'équipe de Gallimard qui travaille aussi pour le Mercure et qui en a beaucoup discuté. Et j'ai bien insisté sur l'importance du décor, du milieu, l'atmosphère de ces romans. Et je voulais qu'on ressente ça à la vision de la couverture. Donc, je trouve elles ont vraiment réussi à se concentrer là-dessus, avec toujours bien évidemment un personnage, parce que c'est très, très important. Je ne voulais pas qu'on soit dans du trop noir, pour ne pas être vraiment sur la gamme. Voilà,
Il y a de la couleur.
Il y a de la couleur, oui. Et en même temps, il fallait que ça soit quand même un peu inquiétant. Donc, c'est vrai que là, les premiers, il y a toujours cette atmosphère qui vient en premier lieu. Là, pour l'instant, forcément, on est au début, donc du coup, les tonalités sont très différentes, ce qui est chouette. Voilà, un rouge sanguin, c'est quand même effectivement assez effrayant. Ce vert sombre, là, une fin de nuit un peu agitée. Et l'idée, c'est... Enfin, le pari, ce serait ça. C'est-à-dire que chacun a sa personnalité, se distingue sur une table. Pour l'instant, c'est vrai que c'est le début, donc ça fonctionne assez bien comme ça. Et après, les silhouettes, voilà, je suis assez attentive à la représentation du personnage aussi. Je ne veux jamais vraiment au premier plan, mais en même temps, c'est important qu'il vous entraîne dans l'enquête, dans l'histoire. Voilà. Et le nom s'est imposé... c'est vrai que c'était l'idée de départ, c'est-à-dire Cosmopolis, collection littéraire, qui souhaiterait avoir une sœur qui pourrait accueillir les polars d'auteurs littéraires publiés en Cosmopolite. Voilà, que les deux univers seraient un peu liés, on pourrait passer de l'un à l'autre. Donc du coup, quand Isabelle Gallimard m'a dit, ben, voilà, nous non plus, nous n'avons jamais publié de polar, la maison est très littéraire et elle a une histoire très longue, le Mercure, c'est début 20e, c'est plus ancien que Gallimard même. Mmh. Et donc l'idée, c'est forcément de la décliner. Enfin, voilà, c'est elle est liée à la maison. Donc Mercure noir, puis cette idée que le Mercure, même si c'est pas la première signification du Mercure dans Mercure de France, la couleur à laquelle on pense, ben, voilà, d'opposer la couleur du Mercure et le noir, ça nous plaisait. Donc il faut réfléchir à tout ça, effectivement, au moment où on prépare une collection. C'est vrai que parfois, si on pensait simplement à tout ce qui existe, et à tous ces livres qui sont en librairie, on se dirait, mais on devrait peut-être se dire, non, plus jamais. Et en même temps, c'est un peu le propre des éditeurs que, voilà, on n'en a jamais assez. Et en même temps, moi, j'ai la grande chance depuis des années de travailler pour des maisons et des dirigeants de maisons d'édition qui m'incitent à publier de manière sélective et à défendre chacun des livres publiés, des auteurs qui sont là. Et ça, je trouve que c'est assez formidable. Voilà, je tiens à le dire parce que ce n'est pas si commun, en fait. C'est vrai qu'il y a aussi certains de mes collègues qui n'ont pas le choix que de devoir publier 30 à 40 livres par an. Et c'est assez effrayant.
Mais... Et donc pour 2015, alors pour le début, puisque ça se profile déjà, est-ce que alors il y aura donc Dolores Redondo qui va être reprise au mois de mars, si on attend, on attend impatiemment, et pas mal de lecteurs et de clients nous demandent quand le deuxième tome paraît, parce que c'était sur la quatrième couverture, c'était une trilogie qui était annoncée, la trilogie du Bastan, et donc le deuxième va paraître.
Le troisième vient de sortir en Espagne, et c'est vrai que la trilogie est devenue un phénomène dans ce pays. C'est vrai que Dolores a vraiment bâti, là, pour le coup, un monde autour de ce personnage d'inspectrice, Amaya Salazar, qui a une trentaine d'années, qui vit près de Pamplune avec ce sculpteur américain qui est venu là, bien évidemment, par amour pour elle, mais qui travaille quand même pour le Guggenheim de Bilbao. Et ce couple est très, très attachant lui-même.
Oui, tout à fait.
Amaya, on sent très vite qu'elle a un certain mal à se remettre de coups qui lui ont été assénés dans l'enfance, de une pression psychologique terrible venue de sa mère,
oui.
Personnage vraiment lourd. Oui. Ça, dans le premier livre, tout s'installait, je veux dire, le milieu. Et puis, comme elle est inspectrice, elle est forcément chargée d'enquêtes qui, dans ce milieu-là, Pamplune, les montagnes autour, elles sont quand même très, très rudes et qui touchent... Enfin, en fait, les meurtres sont souvent... sont souvent des femmes, les victimes des meurtriers, et très souvent les hommes sont effectivement, enfin les hommes les plus proches d'elle, les pères, les maris, etc. Voilà, sont ceux qui les violentent. En même temps, ce que je trouve très intéressant chez elle, c'est qu'elle montre que quand même tout ça est perpétué par les mères aussi.
Oui.
Donc il n'y a pas de voilà, rien n'est blanc ou noir. Et donc elle avait bâti ce monde avec le gardien invisible. Nous dans le deuxième, on va la voir devenir maman.
Oui, et il y avait une difficulté à être maman dans le premier, à enfanter, ouais. Justement, dû à ses traumatismes psychologiques. Et à la fin, ça laisse en effet supposer que...
voilà, sans trop... Bon, il faut aussi avoir envie de lire le premier. Mais ce qui est très, très intéressant pour un éditeur, c'est qu'au sein de cette trilogie, en fait, vous pouvez lire chacun des livres indépendamment. Elle sait aussi amener suffisamment de détails dans chaque livre sur ce qui s'est passé avant, les liens entre les différents personnages. Parce que donc, Amaya, sa famille vit toujours dans cette région du Bastan, qui est donc... à une centaine de kilomètres de Pamplune. Et en fait, il y a notamment ces deux sœurs qui sont deux personnages assez inénarrables, Ross et Flora. Et il y en a une qui tient encore la fabrique de pâtisserie familiale, qui est un lieu, d'ailleurs, où à la fois, bien évidemment, il s'agit de saveurs et de pâtisserie. Elle décrit ça très bien. Mais en même temps, il s'est passé des choses dans cette fabrique. Mmh, mais bon, ça, c'est pareil, on ne peut pas trop vous en révéler. Et ce qui est très fort, je crois, c'est qu'elle réussit vraiment à nous montrer toute la complexité du quotidien d'une inspectrice de cette génération dans ce milieu-là, avec le machisme qui sévit quand même dans son commissariat, en même temps l'allié qu'elle trouve en un jeune homme, Yonan, qui lui se passionne pour l'anthropologie, qui est un type un peu efféminé, donc forcément lui aussi subit voilà, des remarques difficiles. Et donc là, dans le deuxième livre, elle devient mère, et donc l'enquête voilà, dont on la charge est encore vraiment très très violente. Ces femmes sont retrouvées dans un état terrible et apparemment les maris les ont tuées. Et en même temps, ces hommes ont un comportement étrange parce qu'à chaque fois, une fois qu'ils sont arrêtés, ils se suicident en inscrivant avec leur sang la mention Tartalo, le Tartalo étant une créature mythologique locale qui ressemble au cyclope. En quelque sorte. Et en même temps, ils font toujours en sorte qu'Amaya soit plus ou moins prévenue. Donc, on se demande assez vite dans le livre si finalement, il n'y a pas quelqu'un qui orchestre tout ça et qui veut régler ses comptes avec Amaya. Et donc, très vite, en fait, et c'était déjà le cas dans le premier, l'histoire oui. personnelle de cette femme et l'enquête de meurtre voilà, qui s'avère liée et il y a un rythme assez trépidant. Et puis voilà, quand on finit le deuxième, parce que moi, donc, j'ai eu la chance, effectivement, maintenant, de pouvoir lire toute la traduction, ce qui est assez fabuleux, c'est que quand on termine le livre, alors on a plein d'éclaircissements sur beaucoup d'éléments qu'on avait déjà entrevus dans le premier, et en même temps, on sait que ce n'en est pas fini, qu'il va y avoir un troisième dans lequel on va enfin comprendre toute cette histoire familiale et autres. Mais pour autant, on en a tellement eu, on nous a tellement donné qu'on n'en repart pas du tout frustré. En fait. Et voilà, donc c'est vrai que c'est devenu en Espagne un immense succès. Elle est un peu célébrée là-bas comme la reine du polar. En France, le premier livre avait été...
Oui, on l'avait fortement, fortement aimé. Et c'est vrai que c'est... Alors, il paraît chez Folio à la rentrée en janvier. Donc, le premier, Le Gardien Invisible. Et Le Gardien Invisible, donc, c'était le nom aussi du Baza Jaune, cette créature mythologique, puisque l'arrière-fond de ce polar aussi, c'est toute la mythologie du basque, local, voilà, et comment ça s'intrigue, ça va se mêler avec l'enquête policière, l'enquête familiale, ouais. puisque sur les lieux du crime se trouve la fameuse pâtisserie fabriquée par la famille de Amaya. Donc c'est vrai que c'est palpitant et c'est vraiment donc forcément vous inviter c'était naturel pour nous, c'était une envie.
C'est vrai qu'il me semblait pas y avoir eu de polar basque, alors pas je veux dire peu, voilà, c'est un territoire assez peu exploré encore, et je trouve que souvent le monde urbain est plus présent finalement, enfin tout ce qui nous est parvenu même de l'étranger d'ailleurs. Le monde scandinave, finalement, on connaît plus les banlieues de Stockholm, d'Oslo, que vraiment ce qui se passe dans les campagnes, voilà, dans ces zones où on s'ennuie beaucoup, encore une fois, où on boit pas. Enfin, voilà, toute la violence peut se déchaîner. Et ça m'intéresse, effectivement, d'aller voir un peu là-bas ce qui s'y passe.
Parce que chez Monica Fagerholm, c'est aussi la nature, elle est très très importante. Enfin, je veux dire, c'est le territoire, vraiment, c'est vraiment aussi important que l'intrigue qu'on a l'impression. Ouais. Et puis cette jeunesse perdue et cette déliquescence et cette adolescence.
Il y a beaucoup d'adolescents qui s'ennuient aussi, et puis surtout qui ne savent plus trop, qui commencent à comprendre le monde des adultes ou ce qui s'y passe, et n'ont pas véritablement envie de comprendre en même temps. Ils aimeraient rester des enfants, donc forcément les enfants jouent dans la nature. En plus de facilité à imaginer un monde un peu surnaturel, voilà, se donne des noms. Il y a une tribu d'enfants les oiseaux squelettes sur laquelle règne Anita, qui est cette jeune fille paralysée qui vit dans ce moulin, voilà, qui je pense devrait vous donner quelques cauchemars. Et Anita est celle qui possède la fameuse poupée Lola. C'est un peu tout ce qu'elle a et quand même une certaine volonté de puissance et d'autorité qui est malmenée, mais et finalement chez Fagerholm, c'est vrai que le récit, enfin la puissance des histoires qu'on raconte entre nous, ce qu'on en fait, la manière dont on transforme le réel et les implications que ça a, enfin les impacts que ça a sur ce qu'on devient, le mal qu'on fait aux autres et tout, c'est très très puissant, je trouve.
Tout à fait.
Alors avant d'être éditeur, on est lecteur. Vous avez toujours lu, vous avez toujours eu une passion pour le livre, parce que vous en parlez tellement bien. Vous êtes née dans un livre.
Un peu, oui. Ouais. Enfin, j'ai survécu dans un livre. Oui, c'est vrai, j'ai un petit garçon de 9 ans. Donc forcément, je l'observe un peu Maintenant, il a commencé à lire il y a quelques temps, mais du coup, il a un rapport très différent. Il lit pas mal, mais il ne recherche pas vraiment non plus. Alors, même s'il a adoré Harry Potter, il ne cherche pas forcément à s'évader dans d'autres mondes. Moi, je vivais vraiment dans les livres, à un point qui était certainement un peu... Enfin, j'étais une enfant unique, je vivais donc, je disais, dans cette campagne auvergnate. Après, c'est vrai qu'assez jeune, et ça, c'est quelque chose dont je me souviens, et puis je trouve que c'est un... J'ai l'impression qu'on éloigne un peu maintenant les jeunes adolescents d'une littérature qui, nous tombait entre guillemets plus facilement entre les mains, je veux dire, parce qu'on considère qu'il faut qu'ils lisent des romans pour ados, par exemple. Et il y en a qui sont merveilleux, hein, je veux dire, je n'ai rien contre la littérature pour adolescents, mais moi, je me souviens que mon plus grand plaisir, c'était de voler des livres dans la bibliothèque de mes parents. Alors, j'ai eu cette chance, il y avait des livres dans la bibliothèque de mes parents, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas eu le temps de tous les lire, d'ailleurs, j'ai compris après. Donc, il y en a finalement. Virginia Woolf, par exemple, je l'ai rencontrée assez jeune, peut-être trop jeune, et en même temps, je pense que c'est jamais justement ce qui est. Ce qui est beau, c'est la manière dont un texte vous laisse un peu, déconcerter.
Voilà, les premières lectures sont souvent très marquantes, quoi.
Ouais. Hein,
se déposent en vous.
Vraiment. Ouais. Et c'est vrai, je disais le policier, effectivement, j'en ai dévoré. Je sais pas. J'en parlais à un ami très proche qui, lui, n'a pas de goût pour le polar. Et il se rendait compte à quel point... je ne sais pas comment expliquer qu'effectivement, même avec des mécaniques qui sont très rodées, quelque part, quand un auteur a réussi à imposer un personnage avec sa détermination et en même temps la manière dont une enquête forcément l'amène à travers ses différentes épreuves et tout, pour moi, ça marchait. Alors, il y a des livres que j'ai préférés à d'autres, des univers que j'ai préférés à d'autres. Mais,
Oui, on voit combien le roman policier maintenant est décloisonné. Mercure Noir, il contribue aussi. Et c'est vrai qu'un roman sur cinq acheté est un polar. On le remarque. C'est vrai que c'est une littérature maintenant qui n'est plus une para ou une sous.
Beaucoup d'auteurs qui considérés comme littéraires veulent maintenant écrire un polar. Ils ont l'impression que c'est le livre qui va aller... porter à la célébrité, ils n'ont pas tort. Je pense aussi que la littérature française, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on lui a reproché à l'étranger, en tout cas beaucoup ces 15 dernières années, de plus se soucier d'intrigue. Voilà. Et du coup, je pense que le polar a nourri des lecteurs qui s'ennuyaient un peu d'une certaine littérature très narcissique. Pour autant, je pense que les deux, justement, il y a d'autres choses en littérature, française, qui méritent vraiment d'être lues. Et tous les polars ne sont pas bons. Mais du coup, c'est intéressant, je trouve, qu'il y ait des liens qui s'établissent. La littérature qui parle plus de société aujourd'hui, beaucoup de faits divers, on a pu noter quand même. Donc, tout ça, c'est quand même un peu le polar qui a aussi crédibilisé ces sujets-là, je pense. Et je trouve ça le mélange des genres est intéressant.
Oui, c'est le miroir de notre société aussi. C'est ce qu'on aime y trouver, ce qu'on aime y retrouver, quoi. Et vous nous avez porté quelques-uns de vos coups de cœur, puisqu'on vous avait demandé, on a préparé l'entretien, on l'avait demandé, et c'est vrai que vous nous avez abondamment répondu, et on vous en remercie. Alors,
De choisir.
On ne pourra peut-être pas parler de tout, mais voilà. C'est à vous de choisir, là.
Peut-être Ingrid Hasson, pour commencer, je suis sûre que vous... Vous avez certainement lu maintenant, mais moi, je me rappelle des tout débuts. Effectivement, j'avais été complètement sidérée par ces terres islandaises qui, à l'époque, m'étaient totalement inconnues, que je n'ai pas plus envie de visiter maintenant. D'ailleurs, je crois qu'il m'a donné une image qui est à la fois... Alors, j'adore les lire, j'adore soulever un peu le voile sur la société islandaise, l'histoire politique qui s'est déroulée là-bas ce dernier siècle. La femme en vert, c'est celui avec lequel je l'avais découvert. Et je trouve qu'en même temps, là, pour le coup, vraiment, chapeau bas, son personnage, son commissaire, là aussi, son histoire personnelle, familiale, les rapports avec sa fille, donnait vraiment beaucoup de chair à une enquête. C'est vrai que les procédures policières, finalement, c'est assez sec si on regarde simplement ce qui se passe, les documents, etc. Et donc, c'est important aussi, je pense, de montrer... l'intériorité de ces personnages, qui sont quand ils choisissent de faire ce métier-là, ce qu'ils essayent de régler, et puis aussi les obstacles qu'ils rencontrent, leur hiérarchie, entre le milieu politique et la police. Et je trouvais vraiment que Je pense que c'était un coup de cœur qu'on partageait aussi.
Mais c'est le préféré de Karina.
Ah, oui, en plus, ouais,
une histoire de femme en plus, entre passé et présent. Et puis voilà, ouais. Psychologiquement, cette femme battue, comment va-t-elle s'en sortir? C'est superbement écrit, à la fois cruel et en même temps tellement bien écrit que ça en devient poétique, alors que c'est la douleur d'une femme. C'est Ingrid Asson qui m'a beaucoup touchée. Oui, c'est mon préféré. C'est le deuxième de la série, celui-ci.
Oui. Et j'avais pas vu qu'il avait eu, d'ailleurs, beaucoup de prix. Mais le rapport entre passé et présent aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le polar. Je trouve que c'est un genre qui permet ça, finalement, d'aller explorer un peu les zones sombres de l'histoire.
Dis par exemple, vous auriez eu son manuscrit entre les mains, vous l'auriez édité, ça aurait correspondu?
Celui-là, oui.
Oui, celui-là.
Après, de l'islandais, j'aurais fait confiance à Eric Bourri, je pense, qui est un très bon traducteur, d'ailleurs. Mais... après, ce qui est compliqué, c'est le propre de notre métier, c'est-à-dire qu'on a un coup de cœur pour un livre, enfin, ça commence avec un livre, il ne faut pas oublier, et puis après, il y a un auteur qu'on installe et auquel on s'attache, souvent, certains auxquels on ne s'attache pas et dont on aimerait se débarrasser, et ceux-là, parfois, on rencontre un succès tel que, voilà, il nous faut bien faire avec. Mais il y a ça en fait dans cette histoire quand même, c'est que finalement après un livre on en attend un autre, des fois on reste un peu sur le souvenir du premier, on est un peu déçu. Alors en littérature étrangère, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut difficilement leur dire, ça a été déjà édité par quelqu'un d'autre en général, ou en tout cas même quand je vous le disais tout à l'heure, on a le manuscrit entre les mains et qu'on va s'engager, c'est l'éditeur américain ou anglais qui aura la priorité, et déjà ils devront s'entendre entre eux, ce qui va être assez compliqué. Vous voyez, quand il y a un anglais, un canadien, un américain qui s'engage, trois personnes vont devoir dire à l'auteur, voilà, ça j'aime pas. Et du coup, forcément, on est. Après, voilà, il y a notre lecture, il y a nos impressions. Et puis au moment où on sait qu'on va le publier, on doit un peu mettre de côté, les petites parts de déception qu'il y a peut-être eu. Et pour autant, on se doit aussi un peu de dire aux journalistes, aux libraires. On retrouve son personnage qui est extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus aller. La réception après, elle viendra. C'est-à-dire que si l'on entend, le livre précédent quand même, vous pouvez vous obstiner et dire non, je pense que celui-là est bien meilleur. Mais en réalité, l'idée c'est aussi que votre crédibilité, vous l'engagez auprès des libraires et des journalistes. Et du coup, vous avez quand même, envie de dire ce que vous ne pouvez pas officiellement dire, mais de laisser entendre que oui, peut-être, effectivement, le précédent, mais il y a celui-là qu'on publie parce que on tient à l'auteur, etc. Et puis après, il y a un livre qui peut arriver ensuite et qui sera le très grand livre aussi. Donc la fidélité de la valeur, je veux dire. Enfin, on est récompensé, je pense. Et parfois, on se quitte quand même.
Des histoires d'amour.
Oui. Oui, puis pour nous aussi, c'est des personnages qui deviennent presque familiers. Erlendur, vrai qu'il fait partie de notre famille. Notre famille de cœur.
Je vous en prie.
Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de tout le cœur que vous aviez amené.
Une petite sélection. Alors, dans le désordre le plus pêle-mêle, Marie-Pierre Adore, Tim Coquet, qu'elle a édité.
Oui, c'est un auteur américain que j'ai publié dans une autre vie avant Stock, où je travaillais pour une petite maison indépendante qui s'appelle Alvic. Et on m'a proposé d'y développer une collection de romans policiers. Et donc le héros Hitchcock Sewell de cette série est croque-mort à Baltimore. Et c'était à peu près au même moment, mais avant le grand succès de Six pieds sous terre, la série. Et j'ai beaucoup aimé d'abord le personnage. Effectivement, pour son activité première qui était singulière et forcément qui l'amenait à rencontrer un grand nombre de veuves éplorées ou de personnages qui avaient traîné près d'un meurtre. Mais aussi parce que lui-même, sa propre histoire, encore une fois, était vraiment très, très attachante, très émouvante. Et il y avait vraiment un ton. C'est, je trouve, une de ses rares séries policières. Je le rencontre vraiment assez rarement, de l'humour dans le polar. Et il a cette verve, vraiment. Donc c'est une série... Il y en a cinq, c'est Point, en fait, qui a repris l'ensemble de la série.
Là, dans Point 2, il y a une petite compilation de deux ou trois deux enquêtes. Oui.
C'est drôle. Hein. Oui. C'est vrai que c'est le seul croque-mort que j'ai jamais croisé en lisant des polars.
Il est nécessaire pourtant dans le
croque-mort. C'est ça. C'est pour le médecin légiste.
Voilà, c'est ça.
Il n'est pas très loin du médecin légiste, mais je ne sais pas, d'habitude, on l'ignore.
Bon, c'est vrai que vous avez des goûts très variés. Là, vous aviez choisi aussi le poète de Gaza.
Oui. Voilà, c'est Sarid. Qu'on a adoré aussi. Oui, c'est vrai que c'était un gros coup de cœur. Grand prix littérature policière en 2011. Méconnu, mais vraiment, nous, on le conseille. Et, c'est vraiment,
et pourtant, il a fait un... C'est drôle, vous voyez, méconnu ici, mais c'est vrai que dans d'autres pays... Bon, après, en Israël particulièrement, oui. C'est vraiment un livre-événement, en fait, mais parce qu'il est venu... révéler un peu les démons de cette société. Et, mais c'est ce qui m'a intéressé, moi, dans le livre. Et
c'est une rencontre humaine magnifique, quoi, au-delà du... Enfin, c'est presque pas un polar. Enfin, moi, je l'ai pas lu comme tel. Je l'ai lu comme une rencontre, c'est extraordinaire, entre deux hommes de ces deux cultures et qui devaient se détester, voilà. Qui devaient se... L'un tuer le fils de l'autre. Mais voilà, il y a une rencontre au-delà du... Au-delà du... Du meurtre commandité, quoi. C'est une rencontre humaine. Ouais.
C'est au-delà du polar.
Hein. Au-delà du polar, totalement.
Totalement. Oui. Ouais, c'est totalement. Je pense, en plus, je ne sais pas quand il est sorti, mais c'est vrai qu'il semble important de le lire, de le relire.
Oui.
Le terrible Westlake, le couperet. On a choisi le couperet, en fait, on ne savait pas le titre de Westlake que vous auriez choisi.
Ah, si, le couperet, c'est.
Parce que ça, c'est le Westlake noir, mais il y a le Westlake rigolo. C'est un hors-série qui est sorti exprès pour Noël. Ils ont fait une jaquette à tirage limité.
Ça, c'est vraiment chouette.
Je ne sais pas si c'est celui-là que vous auriez choisi
si,
de Westlake.
Le couperet, c'était vraiment celui par lequel je l'ai découvert, d'ailleurs. Mais là, c'est finalement un peu ce qu'on décrivait tout à l'heure, savoir le personnage désabusé, mais qui pourtant va trouver l'énergie de venir au secours de l'orphelin.
Là, c'est une sacrée dénonciation du milieu du travail et du chômage. Hein. Il y a un constat social et noir terrible. Alors, Ex-Braya, vous l'avez déjà cité.
Je vous avais donné,
il n'y en a pas beaucoup qui sont réédités au masque. On en trouve 4 ou 5. Oui, c'est un peu dommage.
C'était le titre qui m'avait marqué, effectivement. Enfin, quand vous l'avez dit, tout est revenu. Et...
C'est toute une série, hein, Imogen.
Oui, c'est une femme enquêtrice écossaise, redoutable.
De tout cinéma.
Vous avez cité Elroy, c'est un incontournable aussi. Hein.
Ouais,
Elroy,
ouais.
Ça, bon.
Elroy, oui.
Un monument.
Là aussi, l'édition est magnifique.
Voilà.
C'est toujours ce hors-série. Oui. Un petit faible pour Vargas.
Oui. Bah oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est drôle parce que pour Dolores. Il y avait
Ah oui, mais moi, c'est vrai que je l'avais trouvé avec un truc un peu magie, un peu surnaturel, mais en même temps, tellement une poésie aussi dans l'écriture. Et c'est vrai que. Le prochain Vargas qui va paraître en mars, on commence à le dire, enfin.
Ce goût pour l'anthropologie, pour l'histoire.
Pour les contes.
Les contes, oui.
Alors, on peut revisiter vos classiques aussi avec Agatha Christie. Ça, tout amateur de polar les a lus, hein, Agatha Christie. Victor Larrabol, oui, pour nous aussi, ça a été une découverte, ça. Ouais. La tristesse du samouraï.
Oui, parce que c'est vrai que cette histoire de la phalange en Espagne, donc toutes les contradictions au sein même du camp franquiste, oui, en fait. Ça ne m'était pas du tout connu, je dois dire. Et là, c'est vrai que c'est vraiment appréciable d'être pris par une... une affaire, une enquête, enfin, qui c'est, d'ailleurs, c'est pas véritablement l'enquête, il prend le premier.
Non, c'est aussi une histoire de malédiction familiale,
voilà,
qui court sur plusieurs générations, une sorte de vengeance. Donc, c'est vrai que c'est un roman qu'on conseille tout le temps, qui est tout le temps sur notre table. Enfin, voilà, c'était le premier roman de Victor de Larrabol traduit, et vraiment, ça compte beaucoup.
Là, je suis allée pêcher McKinty, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. On a voulu les deux mettre dans votre sélection. Et il y a deux libraires fous de McKinty ici, qui peuvent peut-être dialoguer deux minutes avec vous. Si vous
voilà, on les laisse prendre place.
Oui, McKinty, ça a vraiment été une découverte incroyable sur le polar irlandais. Enfin, vraiment, c'était nécessaire, parce que les McKinty, maintenant, ceux qui ne sont pas dans la série des scènes de filles, en fait, ils n'existent plus qu'en poche, et pas tous. Et là, quand il y en a eu un qui est sorti, c'était en plus, c'était vraiment un sujet pas évident, puisque ça se passe en 81, donc Margaret Thatcher est au pouvoir, ça se passe à Belfast, enfin, Belfast et sa banlieue. Et Son de Fille, en fait, c'est un jeune inspecteur de police. Et alors lui, il s'installe donc dans la banlieue de Belfast, à Carrickfergus, donc dans une ville protestante, il est dans une rue protestante, et lui, il est catholique. Donc voilà, donc ça... Honnêtement, ça passe pas. Il a l'habitude, entre deux cafés, d'aller vérifier s'il n'y a pas une bombe sous sa voiture. Voilà, il prend des réflexes comme ça. Et c'est complètement décalé, parce que c'est un humour noir à l'irlandaise, en fait. C'est, et Son de Fille, voilà, il est jeune et il est extrêmement vivant. C'est quelqu'un qui sort le soir, qui va boire des pintes au pub, qui... Donc, il rencontre des femmes, voilà, qui flambent un petit peu. Et en plus, il y a plein de références musicales dans ce livre. Alors, ça ajoute énormément de rythme. Et vraiment, c'était une belle découverte. Et puis même sur la société irlandaise de l'époque, il y a une citation que j'ai trouvée absolument fantastique. Le premier tome, alors là c'est le deuxième, c'est Dans la rue j'entends les sirènes. Le premier tome, c'était Une terre si froide, qui traitait notamment un petit peu en fond du problème de l'homosexualité. Et il a une phrase, il disait que parler d'homosexualité en Irlande en 81, c'était être aussi tolérant que, disons, Salem en 1692. c'est des petites piques comme ça, des tournures de phrases qui font vraiment humour noir irlandais, qui sont vraiment
et en même temps chaque super. Chapitre se terminait sur un accès un peu de mélancolie du personnage avec une résonance avec le ciel, la lande, et ça qui est magnifique. Il a vraiment une plume
Et toi, t'as lu le deuxième aussi.
C'est dans la région de Dans les sirènes. C'est ça qui est que je trouve formidable justement avec Chaîne de Fils, c'est que on en parlait tout à l'heure. On a l'habitude des vieux enquêteurs qui ont le cuir tanné par les épreuves, qui ont connu.
On n'en peut plus de ces gens-là. Ils sont alcooliques et leurs femmes.
Ils sont souvent alcooliques, c'est vrai. Et
pourtant,
ça fonctionne à chaque fois. Et lui, il sera ça, mais plus tard. Pour l'instant, on a ses aventures. Pendant qu'il se fait, et c'est vraiment bien, comme tu disais Marie, sa vie au quotidien est dynamique. Il se pose des questions, il expérimente plein de choses. Quand on a un vieux briscard, il sait un peu dans quel sens ne pas aller. Généralement, il y va quand même. Lui, il expérimente, il essaie de se construire, il essaie de se construire une identité, une force, au travers d'expériences de vie, d'expériences de femme, d'expériences de survie aussi, parce que c'est un monde hostile. Il est respecté, mais à la fois, on comprend bien que sa vie est très précaire. Hein. Marie parlait de bombe sous la voiture, c'est tourné avec humour, mais il va vraiment vérifier s'il n'a pas une bombe sous la voiture très régulièrement.
Et non seulement ça, et en plus, il évolue en tant que catholique dans un monde éminemment protestant. Donc, il y a énormément de problèmes politiques qui se posent dans ses livres, et le fait que Duffy soit catholique lui pose vraiment de gros, gros problèmes. Mais même avec sa hiérarchie, ses copains, quoi, ça va jusque-là. Et Mais par exemple, dans le deuxième, on retrouve en fait, il y a un cadavre qui est retrouvé d'un ressortissant américain, donc il ne faut pas vexer ni l'ambassade des États-Unis, ni le gouvernement, ni son chef qui lui a des émeutes sur les bras, donc il a autre chose à penser. Et en même temps, il y a John DeLorean qui vient d'installer son industrie de voitures. Il ne faut pas le froisser non plus, puisque c'est le seul pourvoyeur d'emploi de la région.
Ouais.
Voilà, donc c'est un micmac pas possible à chaque fois.
Eh bien, il n'a pas commencé de nouvelle série, mais j'aimerais effectivement qu'il me il m'accordait sa confiance, j'en serais très heureuse.
Ouais. Et nous aussi, parce que vraiment on l'aime bien, quand même.
je lui transmettrai.
Il
vit en Australie d'ailleurs, c'est drôle, c'est un Irlandais exilé.
Ouais.
Mais finalement, ce que vous dites, c'est très intéressant, ce que vous disiez de ses problèmes avec sa hiérarchie ou de tout ce qui se concentre autour d'un commissariat. Ouais. Finalement, c'est aussi ce qui rend le polar si riche quand même. C'est qu'à un moment, il y a un tableau des différents intérêts qui se heurtent. Et toutes ces questions morales qui se posent. Et c'est vrai qu'en plus, quand il y a un écrivain à l'œuvre, qui sait à la fois installer une dramaturgie, mais surtout nous laisse des images comme ça très fortes.
Ouais.
C'est finalement
puis dans le côté anti ou pro Margaret Thatcher, suivant le côté où on se place, c'est vrai qu'il est bien engagé aussi. C'est des thèmes qui commencent à arriver maintenant, mais il a fallu 25 ans quoi. Ça met du temps.
Merci.
D'ailleurs, tant que j'y suis sur Margaret Thatcher, j'en ai un autre à vous proposer.
Oui.
Un énorme coup de cœur de l'an dernier. Merci.
C'est le Peter May.
C'est une sortie chez Rivage. Le premier titre qui est publié de lui en France. C'est Né sous les coups de Martin Waite. Ça a été, je crois, mon énorme coup de cœur polar de la rentrée 2013. parce que c'est affreux comme titre, parce que on y est vraiment. C'est-à-dire qu'il a pris le parti de séparer sa narration en deux. Donc vous avez des chapitres avant, des chapitres après. Avant, on est dans les années 80, dans une petite ville de mineurs du nord de l'Angleterre, enfin une ville fictive. Et puis, Margaret Thatcher a décidé qu'ils allaient fermer la mine. Donc évidemment, ça pose quelques problèmes. Donc il y a des émeutes. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Et des chapitres après, qui se passent 20 ans après, et où le journaliste qui avait fait une enquête d'investigation pendant ces émeutes-là revient pour dire voilà, qu'est-ce qui est arrivé à cette ville 20 ans après. Et c'est là que vous voyez les ravages du thatchérisme, en fait. Ni plus ni moins. Et alors, c'est sans concession. C'est l'histoire de plusieurs générations, parce que voilà, il y a des gens qui, dans les 20 ans, ils ont eu des enfants, voire des petits-enfants. Et c'est la vie de toutes ces personnes-là. Et s'ils en sont là aujourd'hui, parce que le seul truc qui marche maintenant à Caldwell, c'est le centre de désintox. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. La ville est morte. Il n'y a aucun avenir. Et on retrouve ces personnages qui ont eu entre-temps une famille, mais qui gardent les stigmates de ce qui s'est passé 20 ans après. Si déjà on n'aimait pas Margaret Thatcher, à la base, on la déteste encore plus, mais on sait pourquoi maintenant. Parce que vraiment, ça prend au trip, quoi. Vraiment, c'est un roman noir, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'enquête de cadavre. Il y a quand même des comptes qui vont se régler. Et puis, c'est vraiment une énorme fresque sociale. C'est passionnant. C'est passionnant, mais en même temps, voilà, ça s'est passé comme ça. Les mineurs se réveillent un matin, en fait, le matin où ils ont prévu d'aller manifester. Ils se rendent compte que la police a entièrement redessiné le cadre de la ville. Ils ont redessiné les rues, ils ont redessiné les parkings pour faire un trajet. Et ils ont quadrillé avec les brigades de chevaux. Ça fait vraiment répression. C'est une scène qui est vraiment, vraiment impressionnante et qui a brisé mon petit cœur libraire en mille morceaux. Parce que vraiment, c'est trop réaliste presque. C'en est à un point où c'est... ouais, ça brise le cœur d'en arriver à ces extrêmes-là.
Et quel est son rapport avec cette histoire ?
Alors, j'ai pas réussi à réellement savoir, ceci dit, entre l'histoire du journaliste qui revient, qu'on a changé son texte quand il a fait son reportage, il y a peut-être un peu de vécu, ou au moins on sent qu'il y a eu énormément de rencontres derrière ce livre pour rendre le récit...
Plus que de recherche, des rencontres.
Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de rencontres. C'est vraiment un livre qui... sur Margaret Thatcher, Adrienne McKinsey et Martin White, vraiment, ces deux-là, c'est à lire ensemble. C'est pas le même point de vue, c'est pas le même lieu, mais on retrouve des choses.
Alors, comme on ne voudrait pas que cet échange se limite à nous-mêmes, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait venir à ma place, faire part d'un de ses coups de cœur dans l'assistance, un lecteur, ou une remarque, ou dialoguer avec Marie-Pierre ? Je cède ma place avec plaisir. Il me semble, Sylvie, que tu voulais intervenir. Des idées en tête, semble-t-il.
D'abord, des questions. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez fait référence à la série Six Feet Under. Mm-hmm. Et moi, je suis lectrice et je regarde beaucoup de séries télévisées, mais les bonnes, The Wire, des choses comme ça. Et je me suis souvent posé la question, ou Borgen, ou The Killing aussi, quand vous faisiez allusion à une des séries. Je me demandais qui a influencé qui. Et est-ce que finalement les séries télé sont pas venues un peu, pas au secours, mais ont aidé certains écrits de polar et certains auteurs à faire encore mieux? Parce que finalement, The Wire, c'est assez ancien.
Ça
2000.
Ah oui.
Ouais.
Et... Donc ça a mis du temps à nous parvenir. Alors,
il y a aussi... c'est assez ancien. Et l'autre, là, avec Vic Mackey, le bouclier, là. Ah, ça y est, voilà. Ouais. Et ça aussi, c'est relativement ancien. Maintenant, on a The Killing, on a The Wire, il s'est mis à écrire un livre. Mm-hmm.
Ça les a nourris, mais je pense que ça leur a peut-être aussi offert plus de liberté. J'ai l'impression que, quelque part, ils se sont peut-être permis des choses... là, c'est vrai que je pense beaucoup à Monica Faggero, mais son rapport à Twin Peaks, par exemple. C'est vrai que de voir peut-être à l'écran des réalisateurs oser des choses en termes de narration, etc., a fait que voilà, ils se sont sentis aussi peut-être plus armés, je sais pas, légitimes. Donc il y a des correspondances effectivement entre les deux mondes. Il y a des auteurs qui écrivent presque sous la forme d'une série. L'auteur australien dont je parlais, Zen Lovitt, finalement toutes ces enquêtes du personnage principal, John Dunn, qui nous livre, c'est un peu comme si vous le suiviez dans une série, dans son quotidien. Et en même temps, vous attachant tellement au personnage et à son histoire que vous êtes tenu d'épisode en épisode.
Ouais, The Killing, par exemple, c'est addictif. C'est le découpage, un épisode, une journée d'enquête. La série, c'est la clôture de l'enquête. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. C'est des moments de télé, finalement, mais qui sont d'une puissance que l'on peut retrouver ensuite dans l'écriture de certains auteurs.
Et il y avait cette série israélienne là, qui a influencé beaucoup, la série américaine qui a eu beaucoup de succès. Mais
Homeland.
L'israélienne était formidable aussi sur les ravages de la détention et le retour en Israël de ces prisonniers qui sont maintenant instrumentalisés par leurs anciens bourreaux, finalement. C'était remarquable. Ouais.
Alors, j'avais promis de parler d'un coup de cœur. Alors, moi, c'est un petit coup de cœur ancien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans vos rayons. J'ai des courses à faire, donc je n'ai pas chargé mon sac. Moi, je voulais parler de Zoulou, de Caryl Ferré.
Oui.
Parce que, alors, je sais plus si c'est un coup de cœur, un coup de poing, un coup derrière la tête, enfin, un machin, en tout cas, qui m'a laissé à plat, et qui m'a laissé à plat à cause de l'histoire, à cause aussi de la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur, et aussi parce que la plume est magnifique. Je me suis souvent dit tout le long de la lecture comment on peut écrire avec de si belles phrases, des mots si beaux, des choses aussi cruelles. C'est un truc qui est absolument assourdissant et c'est étonnant. Voilà, et c'est vraiment un coup de cœur. Alors, je me suis focalisée sur Zoulou, mais on peut faire la même chose avec Aka et Hutu. Et alors, Mapuche, là, moi, je ne m'en suis pas relevée encore. Parce que Caryl Ferré, il dit que son histoire est une histoire d'amour aussi. Il nous dit qu'il a essayé de moins maltraiter ses personnages. Oui, s'il dit, c'est que ça doit être vrai. Mais c'est des gros, gros coups de cœur. C'est quelque chose de magnifique, de flippant, parce qu'on se dit, oh là, mais en plus, c'est comme ça que ça se passe ou que ça s'est passé. Et il nous emmène dans des lieux qui sont pas chez nous. On y est. Moi, c'est mes coups de cœur absolus dans le polar. Voilà.
Quelqu'un d'autre qui serait pas timide voudrait-il venir ici? Non. Allez, Bernard.
Un roman français, bien de chez nous. Donc, Aux animaux la guerre, qui se passe dans une petite ville des Vosges, d'un type qui s'appelle Nicolas Mathieu et qui est sorti Acte Noir, pardon. Voilà, et c'est l'histoire d'une grève dans une manufacture ouvrière, dans une industrie qui est en train de se déliter, racontée par ses protagonistes. Alors, il y a une inspectrice du travail, un salarié, syndicaliste, mais pas très clair, pour faire allusion à des événements qui sont passés récemment, c'est un peu le même genre. Et puis aussi, il y a quand même des liens avec le passé, puisqu'il y a aussi un ancien de l'OS. Voilà. Et donc, c'est une histoire, je ne sais pas si vous connaissez peut-être Serge Ravé, aux éditions de Minuit, qui a fait des romans noirs. Yves Ravé. c'est un peu le même genre, donc c'est-à-dire dans les marges de la France, dans les marges rurales de la France, justement. Hein. Voilà comment ça se passe et comment il y a à la fois une histoire ouvrière qui est en train de se déliter, un roman noir et un roman tout court très intéressant. Voilà.
Merci.
Faire des petits coups de cœur rapides de vos libraires pour Noël. Alors Marie, je ne sais pas si vous l'avez vu, est aux couleurs de l'Écosse aujourd'hui, car elle a adoré le Peter May qui est derrière elle, la trilogie écossaise.
Ouais. Alors ça, vraiment... Je crois que ça faisait longtemps que j'attendais un polar comme ça. Et l'intégrale de la trilogie écossaise de Peter May est arrivée à ce moment-là, avec la magnifique couverture écossaise. d'où je suis assortie. Et j'en ai profité parce qu'en fait, les trois tomes existent séparément en poche, mais quand même, celle-là, elle est belle. Donc, alors, en plus, pour un amateur de polar à Noël, sous le sapin, moi, je vous dis que ça, mais c'est magnifique. Hein. Et non, vraiment, la trilogie écossaise, ça a été une découverte vraiment, vraiment incroyable. Enfin, ça, il me fallait un livre qui m'emmène loin, qui me fasse voyager. Qui, voilà, j'ai rencontré des personnages vraiment inoubliables. Parce que l'enquêteur qui est mis en scène, c'est Finn McLeod, il a vraiment toute une histoire qu'on apprend petit à petit au fil des romans. Donc on apprend toujours quelque chose, on ne s'en lasse pas. Il y a cette île de Lewis qui est au bout du monde. Et vraiment, qui est vraiment inconnu. Enfin, pour nous, c'est inimaginable, un peu comme ambiance. C'est les petites communes de l'Écosse profonde où on fait encore le jour du sabbat. Donc, on fait rien à partir du samedi soir minuit. On ne fait plus rien jusqu'au dimanche soir minuit. Voilà. Et donc, Finn McLeod, dans le premier, il revient sur l'île de Lewis qu'il a fui 18 ans plus tôt. Et donc, il retrouve ses anciens amis d'enfance, son amour de jeunesse. Il découvre des choses qu'il aurait aimé savoir, d'autres qu'il aurait aimé pas savoir du tout. Et au final, il va rester. Et donc, vous avez trois tomes pour vous faire à Finn McLeod, qui est un enquêteur vraiment, vraiment atypique. Et puis... c'est un peu comme Sun Duffy, il a la quarantaine, voilà, donc il est jeune et puis il a pas la même façon d'envisager le monde autour. Et puis Peter May a vraiment une écriture sublime qui rend tout son environnement et ses personnages si vivants que ça, ouais, on en ressort un peu déçu parce que c'est fini, hein. Voilà, c'est quand vous avez fini les trois tomes, il y en a que trois. Et ça peut paraître, le livre est gros, 1000 pages, mais les 1000 pages, elles passent vraiment, vraiment vite. Hein.
Alors, quand c'est fini, vous avez aussi un autre coup de cœur, toujours de Peter May, qui est sorti pour la rentrée au Sion du Rouergue, qui s'appelle L'île du Serment. Alors, Finn McLeod n'est pas totalement orphelin, enfin, nous non plus, puisqu'il a un frère dans le d'une certaine façon, ouais, avec Sy Mackenzie. Tu l'as lu, toi aussi, Marie?
Non.
Tu l'as pas lu, mais c'est vraiment dans la même lignée. Alors là, on est entre l'Écosse, l'île de Lewis encore, et le Canada, le Canada anglophone, l'île de la Madeleine, puisque en anglais c'est Entry Iceland, le titre original, et l'île d'entrée, la première île anglophone de l'archipel de la Madeleine au large de Québec. Et les agents de la sûreté de Québec, dont Sy Mackenzie, un des inspecteurs de cette équipe, est appelé. Parce que le premier homicide est connu, a été perpétré sur cette petite île. Un pêcheur renommé, d'une solide réputation, qui a été retrouvé égorgé. Sa femme est la seule témoin. Et cette femme donc est approchée par Sy Mackenzie, alors que lui n'a jamais été sur cette île et elle n'en est jamais sortie, puisqu'ils vivent tous repliés sur eux-mêmes dans cette petite communauté. Il lui semble la connaître. Bizarrement, le pendentif qu'elle porte les mêmes armoiries que la chevalière qui lui a été léguée par son père. Et donc, il y a une histoire qui va être tissée entre l'époque actuelle donc, et 150 ans en arrière, où on a la grande histoire qui se déploie avec les colons, enfin, qui ont été exilés de force d'Écosse pour venir au Canada. Donc c'est un roman qui convoque la grande histoire, qui convoque aussi un serment d'amour, d'où l'île du serment, un serment que peut-être vont honorer les deux personnages, les deux descendants de cette histoire. Donc c'est une histoire magnifique, encore battue par les vents. Enfin, c'est un roman d'atmosphère, un roman d'amour, un roman policier, puisqu'il y a une enquête, bien entendu. Enfin voilà, c'est vraiment Peter May, on l'aime. Et je crois qu'en plus, tu m'as dit, Marie-Pierre, que vous êtes édité à la rentrée en février. Un nouvel auteur écossais, Barry Gornell.
Barry Gornell, ah. Ouais. Très noir aussi. Et les Highlands sont la terre qu'il a choisi de décrire, qu'il connaît bien. Et ce sont les tourments d'un, d'un couple qui arrive là pour apparemment s'installer au milieu de la nature, vivre loin du stress urbain, dans une vieille ferme qu'ils ont fait retaper. Et puis, dès leur arrivée, ils se rendent compte que le voisin, Lotter Grove, n'est pas très, très accueillant et même un peu inquiétant. Et petit à petit, bon, c'est un livre assez court, comme je disais, assez irrésistible dans la construction. On pénètre un peu dans, finalement, les cauchemars de ces trois personnages. C'est-à-dire le couple, on se rend compte qu'effectivement, ils sont là aussi pour laisser derrière eux un épisode tragique de leur passé. Et puis, il y a cet homme, Lotter Grove, qui, effectivement, semble assez proche de la folie. Voilà. Et donc, on est entre ces deux tensions et il nous amène à un endroit qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc, l'Écosse est une terre très propice au polar.
Donc, ça va sortir le 5 février.
Oui.
Donc, Mercure noir. Un autre coup de cœur, est-ce que... Alors, je la passe à Julien, alors, voilà.
Alors, pas du tout dans l'esprit de Noël, excusez-moi. Donnybrook de Frank Bean. La légende de Donnybrook, c'est une ville en Irlande dans laquelle... pendant une période de l'année, tout le monde se tapait dessus. Il fallait y aller avec un chaudron posé sur la tête, sous peine de se voir fracasser le crâne. On buvait, on prenait diverses drogues et on se cognait dessus jusqu'à plus soif. Le concept du livre se rapproche de ça. Il existe un immense tournoi qui est organisé par un riche américain qui rassemble tous les pugilistes à main nue des États-Unis. C'est du bouche à oreille, des hommes rudes qui vivent par leurs poings et qui ne ressentent que le sang et qui se retrouvent dans cette arène immense pour se cogner dessus pendant plusieurs jours. Et on va suivre le destin de plusieurs de ces pugilistes. Notamment l'un qui est figure rare dans le livre, un gentil qui fait ça pour sa famille, qui a dû voler la somme de départ mais qui n'a pas volé un centime de plus et qui va être entraîné dans un périple à travers l'Amérique profonde telle qu'on ne la connaît finalement assez peu, avec des laboratoires de méthamphétamine clandestins, avec des pecnos aussi sauvages que brutaux, sales et analphabètes. Mais toutes ces personnes-là vont émailler ce récit au rythme d'une rudesse, d'une violence omniprésente, il faut y être préparé quand même, qui va se terminer en apothéose dans un bain de boue et de sang. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus dans l'esprit de Noël. James Lee Burke, le Boogie des rêves perdus, c'est l'histoire d'un bluesman qui est quelqu'un d'assez sanguin, un peu porté sur la boisson, qui a un soir de désespoir et d'énervement, et de concert également, perd patience et tue quelqu'un au couteau par erreur, emporté par ses nerfs. Il se retrouve dans la prison d'Angola, en Louisiane, et il rencontre là Buddy Riordan, et à la fin de leur peine, ces deux compères vont délaisser le monde habituel de James Lee Burke, à savoir la Louisiane avec ses bayous, son humidité, ses pacaniers, son ambiance particulière, pour monter beaucoup plus au nord, dans un milieu à la fois similaire et à la fois radicalement différent, qui est le Montana, avec la rudesse du climat, la rudesse des hommes, une certaine franchise aussi, une entraide, mais une violence sous-jacente, parfois électrique. Et c'est l'histoire de cette rédemption, de y réparer, le bluesman, qui va être tiré entre ses démons, cette violence, ce souvenir, l'alcool qui lui lance des œillades, le travail qui lui tend les bras mais dans lequel il a du mal à tomber, et la musique omniprésente qui berce ce récit. C'est un très très beau livre, vraiment.
Donc merci à tous d'être venus. On n'a pas le temps de parler de merci. Tout le monde, de tous nos coups de cœur, mais en tout cas on se retrouve très vite, apparemment le 17 janvier. Ce sera le prochain Mola Polar, le troisième. suspense total. Voilà, restez connectés, restez à l'écoute et venez nous voir. On a plein d'autres conseils à vous donner.
Merci.
À bientôt.